affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Notre émission de ce jour est une gageure. En effet, nous avons la joie de recevoir dans notre studio Régis Debray, qui a récemment reçu un prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Or, cette œuvre est vaste. Née au cœur du siècle rouge, elle vient de s'enrichir tout récemment d'un nouvel ouvrage titré « Le siècle vert, un changement de civilisation ». C'est dire que l'œuvre de Régis Debray traverse un siècle de mutations. Un siècle de mutation aussi profonde d'ailleurs que Régis Debray, archétype autrefois de l'écrivain révolutionnaire, échappe aujourd'hui de peu au qualificatif de réactionnaire. Mais il ne faut pas s'y fier, ce terme désigne en effet aujourd'hui généralement simplement des écrivains et des personnes, des penseurs qui pensent en dehors des clous de la doxa, en dehors du présent, des gens qui ont conservé une certaine profondeur historique qui peuvent porter leur regard sur aujourd'hui en se souvenant de ce que nous avons été hier. Le terme de mutation est donc au cœur de l'œuvre de Régis Debray. On sent d'ailleurs que ces mutations provoquent à la fois un foisonnement de pensée, mais aussi parfois une nostalgie. Mais j'ai assez parlé, c'est maintenant à Régis Debray qu'il faut donner la parole. Monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Lorsque je parle d'un brin de nostalgie, est-ce que je fais fausse route ?
Non, pas du tout. Je crois que la nostalgie est un sentiment très dynamique. Vous parliez d'un révolutionnaire. Moi, je me définis comme un réactionnaire de progrès, c'est-à-dire comme un révolutionnaire, finalement, puisque la tradition n'est pas ce qui nous tire en arrière, mais ce qui nous pousse en avant. Et il n'y a jamais eu... ce que Benjamin appelait le bond du tigre dans le passé. C'est ainsi qu'il définissait les révolutions. C'est vrai que toutes les révolutions se font au nom d'un passé inachevé, inaccompli, avec une sorte d'émulation envers les ancêtres qui n'ont pas fini le boulot, si j'ose dire. Et donc, je n'ai jamais opposé tradition et révolution. D'ailleurs, tous les révolutionnaires que j'ai connus étaient des grands lecteurs de livres d'histoire, étaient des traditionnalistes. Je veux dire, qu'ils fassent référence à Zapata, à San Martín, à Bolívar, ou à... ou à Tupac Amaru. Donc, voilà. Ces mots ne sont pas à opposer, ils sont à combiner, je veux dire, tradition et révolution. Mais je ne me définis plus comme révolutionnaire. Je me suis d'ailleurs, un moment, défini comme révolutionnaire, quand je faisais la lutte armée, mais dans un contexte très précis, contre une dictature, dans un cadre latino-américain. Mais depuis lors, je suis, comme vous et moi, un monsieur qui regarde... la vie, le monde, et qui vote de temps en temps. Voilà. Mais donc, ces qualificatifs, j'allais dire révolutionnaire, réactionnaire, c'est complémentaire pour moi.
En fait, je parlais de nostalgie, j'ai surtout l'impression que vous avez la nostalgie de l'histoire.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que la nostalgie, c'est un grand coup de pied aux fesses. Hein. Je veux dire, c'est ce qui vous... c'est ce qui vous donne l'envie de recommencer, c'est-à-dire d'achever, d'accomplir quelque chose qui est inabouti, et qu'on appelle la République, le socialisme, ce que vous voulez. Bon, et oui, j'avoue une certaine nostalgie, enfin une certaine mémoire, disons. J'avoue une certaine mémoire. J'avoue un besoin. Pas de récapitulation, mais de remémoration. Et je suis philosophe de profession, mais en fait, c'est la philosophie de l'histoire, plus que l'histoire de la philosophie qui m'a toujours intéressé. c'est-à-dire tout ce qui va à partir de Hegel, le jeune Marx, Walter Benjamin, etc. Donc le mot nostalgie est pour moi flatteur, il n'est pas du tout dépréciatif. Je vous déçois en disant cela, mais je suis très frappé. Moi, ce que je crains beaucoup, c'est que les gens n'aient plus de nostalgie. Parce que s'ils n'ont plus de nostalgie, ils vont devenir très conservateurs. Ça m'angoisse. Alors, ce n'est pas le moment de dire ça ici. À l'Académie des sciences morales et politiques, qui, comme chacun sait, très conservatrice. Mais ça ne me gêne pas.
Nous sommes à l'Institut.
Oui, nous sommes à l'Institut.
À l'Institut qui regroupe les cinq académies.
Qui a eu un large spectre de savoir et de discipline, c'est vrai. Bon, enfin... non, mais je suis très content d'être accueilli par la mémoire nationale, si j'ose dire.
Oui, vous avez dit, vous avez utilisé le terme conservateur pour qualifier l'une des académies. En fait, ce que vous venez de dire pour être qualifié de conservateur,
oui.
Avoir de la mémoire...
Mais bien entendu. Non, mais je vous rappelle, attendez, pour moi, les conservateurs, c'est des modernistes. Hein. Attention. Moi, tous les révolutionnaires que j'ai connus étaient des hommes pétris d'histoire, plongés dans des livres d'histoire. Il n'y a que les conservateurs qui sont en adoration devant la technique, devant l'innovation. Et ils veulent toujours moderniser le pays. Vous savez ce mot-là, il faut moderniser le pays.
Oui, du coup, moi, je ne les qualifierais pas de conservateurs, ceci. Hein. Moi, j'entends des conservateurs au sens propre du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui évalue ce qu'il faut justement conserver,
oui,
transmettre,
oui, vrai,
ne pas
oui.
aller trop vite.
C'est vrai que Paul Valéry a dit quelque chose qu'on fond... ce qu'il faut en politique, c'est conserver ce qu'on a fait de plus précieux. Je suis assez d'accord. Et encore une fois, donc, le mot conservateur, enfin, d'abord conservateur du patrimoine, je trouve que c'est un très beau métier, conservateur de bibliothèque aussi. Pour les conservateurs en politique, c'est des gens assez ennuyeux, que je fréquente pas beaucoup.
Et pas toujours très conservateur.
Pardon ?
Et pas toujours très conservateur, en réalité, non ?
Oui, enfin, ça dépend, il y a de tout. Hein. Il y a de tout pour faire un monde conservateur. On ne va pas commencer par une typologie du conservateur, il faudra d'abord définir le mot, n'est-ce pas ? Mais enfin, moi je prends conservateur du patrimoine, je trouve que c'est un très beau métier. C'est le général de Gaulle qui a dit un jour, au fond, il n'y a pas de plus beau métier que bibliothécaire. C'est assez savoureux. Hein. Enfin, le même disait, un homme c'est un livre c'est un homme. Donc, oui, c'est curieux de voir, parce que on va fêter bientôt l'anniversaire de Gaulle, mais c'est curieux à quel point de Gaulle était un homme du livre, finalement.
Et un écrivain, non ?
Donc un écrivain, un grand lecteur, et un grand écrivain, et un grand philosophe, ce que les gens ne savent pas. Mais on va le leur apprendre.
Mais allons-y.
Ah ben non, je veux dire que Le fil de l'épée est un livre de philosophie... fondé sur une grande connaissance de Bergson, d'Alfred Fouillet aussi, philosophe républicain, avec où on lit, où on voit des citations de Tolstoï, d'Héraclite, enfin, l'immense mémoire de Gaulle. Et il dit explicitement, au début du fil de l'épée, il faut donner une philosophie à l'action militaire. Mais il s'empresse de dire qu'il ne faut pas de doctrine non plus. Il fait une doctrine de la non-doctrine de Gaulle. Il fait une philosophie anti-philosophique, bergsonien en un sens. Mais c'est un livre qui doit être mis au programme de l'agrégation de philosophie. Évidemment. Enfin, il y a une telle coupure aujourd'hui disciplinaire entre, disons, les questions d'action militaire et les questions de réflexion métaphysique, finalement, c'est l'un ou l'autre. Mais on peut combiner les deux, et De Gaulle l'a toujours fait. Oui, vous parlez, comme vous voyez, avec un vieux gaulliste de gauche, ce n'est pas très
contemporain. Vous aviez même dit gaulliste d'extrême gauche, non ?
Moi, je me dis souvent gaulliste d'extrême gauche, c'est un peu pour choquer le... Oui, c'est des coquetteries, mais enfin... Mais au fond, je trouve pas ça si idiot, à un côté, hein, puis évidemment, comment dirais-je, Pour un gaulliste orthodoxe qui n'est ni de gauche ni de droite, ça n'aurait pas grand sens. Mais je dis ça un peu pour essayer de, comment dirais-je, de concilier les inconciliables. Voilà.
C'est là où je voulais en venir. On sent dans votre œuvre une volonté de relier et de réconcilier et de réunir ce qui n'a été finalement séparé que par des questions typologiques artificielles. Relier ce que nous avons été à ce que nous voudrions être, relier les différentes aussi disciplines. Voilà, vous avez parlé d'histoire de la philosophie, mais finalement de la philosophie de l'histoire. Il y a un côté agrégeant dans votre œuvre, et notamment aussi, je trouve, dans cette discipline que vous avez voulu créer, la médiologie, et qui se situe finalement au carrefour de nombreuses préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et me dire si je m'égare dans cette démarche intellectuelle qu'est la vôtre ?
Non, pas du tout. Précisément, la médiologie, ça veut faire un pont, si vous voulez, entre le matériel et le spirituel. C'est-à-dire, ça voudrait montrer que on ne peut pas séparer la culture de sa base technique. Par exemple, la mémoire, c'est aujourd'hui le livre. Le livre, c'est du papier. Il a bien fallu le fabriquer. Et puis, à un moment donné, on est passé du papier de chiffon au papier de la pâte de bois. Ça voulait dire la naissance de l'opinion publique, la naissance du journal. Bon. Vous ne pouvez pas étudier le christianisme sans étudier le codex, c'est-à-dire comment, à un moment donné, on est passé du rouleau au codex. Et vous même pas étudier la naissance de Dieu si vous n'incluez pas la naissance de l'écriture qui permet de créer un Dieu portatif. Dans les textes, vous pouvez les mettre avec vous sur un dos d'âne ou de dromadaire. Ça vous permet de quitter la cité grecque, de quitter la cité hellénistique, parce que la cité grecque, elle a des statues en marbre. Les dieux sont sédentaires. Le dieu juif est un dieu nomade. Mais pour qu'il soit un dieu nomade, il a fallu consigner dans un mini-support les textes du Pentateuque. Non, alors je... Ce sont quelques exemples que je vous donne, mais effectivement, la médiologie, ça veut étudier les interfaces entre ce qu'on appelle la technique et ce qu'on appelle la culture. Ça peut s'appliquer au monde politique aussi, c'est-à-dire, si vous voulez, je reprends un peu vos termes, il s'agit de mettre fin à la traditionnelle opposition entre la matière et l'esprit. Bon, dit qu'on ne peut pas traiter concrètement d'un moment culturel ou d'une évolution spirituelle si on ne regarde pas d'abord les moyens de transport et de communication de cette époque, notamment comment s'opèrent les supports de mémoire, etc. Là, nous sommes en train de parler devant un micro. Moi, le micro, ça m'intéresse beaucoup. Pas tellement ce qu'on dit dedans, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on puisse... le catapulter dans tous les coins. Le micro a peut-être été, au fond, le début de la fin de l'éloquence parlementaire. On ne parle pas une tribune comme on parle devant un micro. Je ne sais pas ce que Jaurès aurait fait. Parce que la voix devait porter très loin, elle devait être ample, il y avait une ampleur de la rhétorique, n'est-ce pas ? Un rythme, des gestes. Enfin bref, vous voyez comment une invention... Alors je ne parle pas de la télévision, hein, qui a évidemment changé tout à fait les règles. Donc voilà, voyez-vous, je ne... Disons que vous connaissez l'adage chinois, quand un sage monte la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde le doigt, pas la lune. C'est-à-dire que je regarde la façon dont on montre la lune. Et ça m'en dit beaucoup sur celui qui la montre. Et sur le moment où l'on se trouve. Sur le lieu où l'on se trouve. Donc voilà, la médiologie est une façon, de transcender l'opposition matérialisme-spiritualisme qui est pour moi stérile, voilà.
En revanche, on pourrait avoir l'impression, en vous écoutant, et parfois en vous lisant, que c'est le, que c'est le support qui finit par déterminer le message, et que la forme même de la civilisation, de la société, est vraiment déterminée par ces outils.
Non, c'est pas aussi unilatéral. Il n'y a pas de déterminisme. Et bien sûr, d'abord, pour qu'une technique soit acceptée, il faut qu'il y ait une culture capable de l'accueillir. Non, je ne veux pas dire que « medium is message », ça c'est McLuhan, c'est beaucoup plus compliqué. Mais, si vous voulez, moi il y a une chose qui m'intéresse, c'est pas la communication, c'est la transmission. La médiologie est une philosophie de la transmission. Qu'est-ce que c'est que la communication ? C'est une information qui traverse l'espace. La transmission, c'est une information qui traverse le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la traversée du temps, c'est-à-dire la culture, la mémoire. Le mot héritier, pour moi, est un mot glorieux. Je ne suis pas bourdivin. Et pour étudier la transmission, il faut étudier les moyens de la transmission, qui sont à la fois des moyens institutionnels et des moyens matériels. Donc, je vais vous choquer, mais au fond, ce qui m'intéresse dans le christianisme, c'est l'Église. C'est l'Église. Alors, les gens sont très bons. Non, non, parce que s'il n'y avait pas eu d'Église, il n'y aurait pas eu de transmission. Comme disait l'autre, je crois que c'était l'abbé Loisy au début du siècle, n'est-ce pas ? On attendait le Christ, c'est l'Église qui est venue. Mais je lui réponds, mais si l'Église n'était pas venue, le Christ serait jamais venu, parce qu'on n'aurait pas eu la transmission de ses paroles. On n'aurait pas eu l'impression, on n'aurait pas eu la consignation par écrit des quatre évangiles. Donc, il faut prendre l'institution au sérieux comme un médium. Une institution, c'est un médium.
Alors aujourd'hui, quelles sont les institutions aujourd'hui, quelles sont les institutions de transmission qui vous semble tenir?
Il n'y en a plus.
Voilà.
Bien sûr qu'il n'y en a plus. Enfin,
elles sont moribondes, elles sont en mauvais état. Mais
non, en principe, l'école devait être un vecteur de transmission. Non, il y avait deux grands vecteurs de transmission. C'était l'armée et l'Église. Ce sont deux vecteurs androcratiques. Pas de femmes. Et aujourd'hui, la féminisation du monde fait que les institutions androcratiques n'ont plus le vent en poupe. Elles disparaissent un peu de notre horizon intellectuel. Mais en fait, la première institution, évidemment, c'est l'école. Mais l'école devient un lieu de vie, comme vous savez, c'est-à-dire, au fond, devient une sorte d'école maternelle pour tout le monde, quoi, là où on laisse les enfants, quoi, pour les occuper. Mais au moment où l'école était un vecteur de transmission, il y avait évidemment un système d'autorité, il y avait une estrade. Moi, vous savez qu'en tant que médiologue, je suis très attentif aux estrades. Ça veut tout dire, une estrade. Ça veut dire qu'il y a un lien d'autorité entre celui qui est sur l'estrade et celui qui est en contrebas. Lorsque vous avez supprimé dans les salles de classe l'estrade, c'était le début de la fin. Enfin voilà, on va pas. Je vous donne quelques exemples, si vous voulez, de réflexions médiologiques, où vous serez toujours étonné de voir des choses considérées comme indifférentes ou bassement matérielles jouer un grand rôle culturel. Mais là, on s'égare un peu, peut-être.
Non, pas tout à fait. Parce que je pense qu'il faut arriver au présent, justement, pour le remettre en perspective. Et je suis assez frappé que, notamment, un certain nombre d'outils ont donné lieu, je pense aux outils numériques, à une série, quand même, d'analyses remplies de superlatifs, où, justement, on nous expliquait que ça allait tout bouleverser. Et là, vous prenez à rebours ce discours en nous expliquant qu'au contraire, il reste des permanences. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a toujours une tension dans vos analyses, à certains goûts aussi du contrepoint ou du contre-champ.
Et quand du contre-pied.
Ou du contre-pied. et que, en l'occurrence, face à cet outil-là, tout en voyant ce qu'il va transformer, peut-être ce qu'il transformait réellement, vous allez nous le dire, cela n'empêchait pas des permanences, comme votre autre préoccupation, moi, vous l'avez déjà abordée, centrale, le sacré. Alors comment tout cela s'articule-t-il? Est-ce que dire que le sacré persiste mais se transforme? Comment démêler tout ça, ces permanences et ces changements, sur ces deux points?
Et là, vous posez la question clé. Je ne crois pas qu'il y ait une société sans un point de sacralité, c'est-à-dire sans une transcendance. Le problème du numérique, c'est que c'est de l'horizontalité, n'est-ce pas ? C'est à la fois une démocratisation, puisque chacun peut donner son opinion sur à peu près n'importe quoi, mais c'est aussi, je dirais, une mise à plat, la perte du relief, la perte du dénivelé entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, entre le maître et l'élève, entre l'ancien et le jeune. Alors, que devient le sacré aujourd'hui ? Le sacré, vous savez, dans ma bouche, c'est pas du tout un être, une chose transcendante. C'est une chose qu'on sacralise. C'est une chose que les hommes ont décidé de sacraliser. Ça peut être un arbre, ça peut être un ancêtre, ça peut être un lieu. Et ce sera toujours un lieu de rassemblement, de convergence, d'unification. Si vous voulez, le sacré est un coagulant. À quoi le distingue-t-on ? À ce qu'il est entouré de règlements. On n'y fait pas, dans un lieu sacré, on n'y fait pas n'importe quoi, on n'y rentre pas n'importe comment. Même à Notre-Dame, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer pieds nus, tant mieux. De même que vous êtes forcé de rentrer pieds nus dans une mosquée, je veux dire, il y a à chaque fois un rituel. Une sacralité, c'est un rituel. Mais c'est aussi... ce qui interdit le sacrilège et ce qui commande le sacrifice. La patrie, la nation était sacrée quand on se sentait tenu de mourir pour elle et quand ceux qui trahissaient étaient condamnés à mort. Alors ça vous choque, n'est-ce pas ? Mais le sacré a un coût toujours. Ça coûte. Mais je crois que le calcul coût-bénéfice est plutôt en faveur du bénéfice, c'est-à-dire le sacré, c'est tout de même le lien, le coagulant, c'est ce qui fait que ça tient ensemble. Voilà. Pour qu'une société tienne ensemble, c'est pas simple, hein. Nous, on est en train de se défaire, mais du moment où un archipel, enfin, vous connaissez, toi, atomisation, bon, communautaire, etc. Mais ça, c'est la conséquence de quoi ? D'une perte de sacralité. Alors, il y a... Quand une sacralité s'en va, il y en a toujours une autre qui revient. Là, en ce moment, ce sont plutôt les sacralités communautaires ou alors la nouvelle sacralité de la nature. Voilà. On n'est plus coagulé à l'intérieur d'une circonscription, unifié par un territoire. On est unifié en tant qu'habitant de la Terre. Le lien entre les hommes est devenu planétaire. Est-ce que c'est suffisant pour leur donner une colonne vertébrale, une cohésion, une appartenance ? Je ne le crois pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on assiste à une sacralisation de la nature et à la fin des sacralités historiques. Voilà. Je veux dire qu'on ne détruit que ce qu'on remplace, disait Danton. On a détruit ou s'est détruit elle-même la sacralité de la nation ou de la classe sociale. Sacralité de l'armée, sacralité du Parti communiste, oui, parce qu'on s'est sacrifié pour le parti, notamment pendant la guerre, chez les résistants communistes. Mais aujourd'hui, non, tout cela paraît aberrant, donc on fouille l'intelligence des plantes, on s'interroge sur la sensibilité des arbres. On est ce que j'appelle dans le siècle vert. On a quitté le siècle rouge pour venir dans le siècle vert. Bon, pour moi, c'est un basculement. C'est vrai, c'est un basculement. Parce qu'on a vécu tout de même dans l'englobant histoire, je dirais, au sens séculier du mot histoire depuis la Révolution française, et au sens, je dirais, spirituel, c'est-à-dire de l'histoire comme attente, de l'histoire comme... avec un début et une fin, début création du monde, ou naissance de Jésus-Christ, fin rédemption, deuxième Deuxième apparition du Messie. Bref, on était dans un vecteur, hein, on était dans un vecteur fléché. C'est fini, on tourne rond.
Oui, car vous dites qu'une des choses qui caractérise cette nouvelle religiosité, j'ose pas l'appeler religion, une religiosité, oui, un peu...
Oui, une religiosité, c'est le mot, parce qu'une religion suppose une structure institutionnelle, pas toujours, mais enfin, dans notre optique à nous, il faut tout de même un clergé, des textes sacrés, des pèlerinages, il faut structurer un espace-temps, n'est-ce pas ? C'est pas le propre de la religion écologique.
Oui, donc vous nous expliquez qu'une de ses caractéristiques, c'est d'être quand même, même si le souci de l'avenir est inscrit dans son énoncé, c'est quelque chose qui est très centré sur le présent. Ça s'exprime dans l'instant.
Oui.
Enfin, on a l'impression que c'est une sortie de l'histoire plus qu'une façon de la faire autrement.
Oui, c'est une sortie de l'histoire. C'est très troublant d'ailleurs quand vous parlez avec des jeunes gens qui sont éduqués, ils ne savent plus très bien si Louis XIV, c'est avant ou après Napoléon. Il y a des doutes. Ils n'ont bien sûr pas fait de latin, pas fait de grec. Ils ont perdu la profondeur de temps. Ils ont même perdu la conscience historique, tout simplement. C'est-à-dire la conscience d'un héritage, d'un lignage... Bon, mais c'est remplacé, hein, c'est remplacé par une autre culture, hein, qui est présentant une très grande sensibilité.
Émotivité.
Une très grande émotivité, un très grand sens de l'écoute de la musique, un sens du corps, une culture du corps, une culture sensorielle. Un autre tempo accéléré. En bref, non, il se met en place, il y a une autre sorte de culture. C'est pas la nôtre, je parle pour moi, mais enfin, c'est pas celle de ma génération. Mais c'est une autre culture, voilà, simplement. Ils sont mal à l'aise avec un livre et très à l'aise avec un écran. Moi, c'est l'inverse. Voilà, donc. Moi, je ne dis pas du tout que c'est épouvantable, une déculture. Non, c'est une déculturation de mon point de vue, mais c'est aussi une acculturation, en gros, à l'Amérique. Hein, parce que la France est devenue américaine, comme vous le savez. C'est très banal de le dire, mais elle est plus américaine.
À une certaine Amérique, en tout cas.
Non, la France est devenue une province américaine. Hein, bon, je veux dire... sauf sur un point, le manger et le boire restent français. Mais les colonies ont toujours gardé un petit folklore. Hein. Nous gardons ce petit folklore gastronomique. Mais ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous rêvons, ce que nous votons, nos critères de gouvernance, tout ça, c'est venu de l'Amérique. Enfin, nous sommes devenus des Américains. Alors, soit dans les beaux quartiers parce que les gens sérieux parlent anglais, c'est le business, hein, c'est la langue du business, soit dans ce qu'on appelle les quartiers dangereux, les quartiers, bah, c'est la casquette en arrière, c'est le rap, etc. Donc voilà, la France américaine a remplacé la France républicaine, d'où l'écroulement d'une certaine transmission. Hein. C'est plus les mêmes choses qu'il faut transmettre. Bon, moi j'ai vécu à cette charnière-là. J'ai vu mourir la France républicaine, j'ai vu naître la France américaine qui s'installe. Or, le processus est ancien. On peut le faire remonter à 1918.
Oui, c'est quand même intéressant. France républicaine et ensuite France américaine. Républicaine, c'est un régime, ce sont des formes institutionnelles, c'est peut-être aussi une façon,
façon
de voir.
Non, c'est pas
institutionnel. Oui, mais quand même, c'est-à-dire que France américaine, on a l'impression que c'est une négation extrêmement profonde qui va au-delà de la forme des institutions, c'est-à-dire que...
Bien entendu, mais on ne parle pas des institutions. Oui. Pour aller vite, si vous voulez, qu'est-ce que c'est qu'un village américain ? C'est la church, l'église... et le drugstore. Un village français, c'est la mairie et c'est l'école. Bon, voilà, c'est ces deux, pour aller vite. Et oui, la France républicaine était fondée sur l'école, sur l'écrit, enfin sur un certain nombre de critères, tout ça est aujourd'hui blackboulé, sauf peut-être dans ce lieu. Dans ce lieu qui, j'en suis très heureux, maintient tout de même...
Ah bah c'est un temple de la transmission, c'est bien...
Maintient un fil directeur, oui, maintient quelque chose de résiduel, mais de nécessaire, qui est d'abord une formalité. On porte des costumes. Il y a des rituels. Non, toutes choses très... très respectable. Enfin, moi, j'étais un ami de Lévi-Strauss et on a souvent parlé de ça, des costumes. Bon, moi, je suis pas fait pour les costumes, mais j'étais très content que lui accepte de le revêtir.
Dans cette fresque que vous brossez, qui est... C'est assez inquiétante, parfois, peut-être pour me rassurer, je me dis oui, mais finalement, tout ça, ça concerne c'est quand même essentiellement l'Europe, c'est-à-dire que vous parlez de siècle vert, j'ai pas l'impression que la planète entière, c'est-à-dire que le souci de la planète nous occupe, mais en revanche, si on regarde le vaste monde, finalement, cette religiosité un peu écologique, elle est quand même essentiellement occidentale, non ? Au-delà ?
Oui.
Pas tellement, hein ?
Non, vous avez raison, C'est une religiosité occidentale. C'est une religiosité de riches, d'abord. C'est-à-dire que de gens qui ont accumulé assez de biens, d'énergie, d'électricité, ils ont de quoi manger, ils ont des grandes villes, donc ils ont la nostalgie de la nature. Mais quand vous avez les deux pieds dans la boue, vous n'avez pas le culte de la nature. Donc c'est vrai, c'est là, on peut dire, l'écologie va devenir, l'englobant occidental. La Chine n'en fait pas une mythologie, même si elle prend soin de la pollution de l'air. Mais
ça, c'est autre chose, non ?
C'est autre chose. Mais effectivement, vous savez, où est-ce qu'on vote où est-ce qu'on vote vert ? C'est dans les centres-villes, hein, c'est pas dans les campagnes. Vous trouverez assez peu de militants écologistes du côté de la Vendée. Les agriculteurs, c'est pas leur truc, vraiment. Mais les bobos que nous sommes, moi, que je suis, ben oui, bien sûr, nous, on a besoin de rusticité, on a besoin d'avoir des écureuils dans les arbres. Mais on connaît plus le nom des arbres. Vous demandez à un écologiste comment il distingue un cerisier d'un pommier, il sait pas. Mais il a le culte de l'arbre. De l'arbre abstrait, l'arbre qu'on creuse, je ne connais pas trop, fait pas de botanique.
Finalement, c'est pas une mode, alors, du coup ? Ou une posture sociale ?
Non, c'est beaucoup plus qu'une
mode. Une distinction sociale ?
Non, c'est beaucoup plus qu'une mode. Ce que j'essaie d'expliquer dans cette brochure, Le siècle vert, 4,90 €.
Chez Gallimard.
Non, c'est important parce que c'est... je m'occupe de transmission, je me suis occupé de cette collection et j'ai voulu, est-ce que ce soit moins de 5 €? C'est ce qu'on appelait l'éducation populaire jadis. C'est pas un mot qu'on aime beaucoup dans cette maison, mais enfin bon, c'était l'idée de rendre la raison populaire, c'est-à-dire bon marché. Voilà, c'est pourquoi je répète 4,90 €.
Oui, c'est-à-dire le prix auquel était avant les livres de poche.
Voilà. Sont beaucoup plus et 4,90 € parce que c'est un tract double. En fait, les tracts simples, c'est 3,90 €.
Oui, car c'est toute une collection, la collection tract chez
Gallimard. Où on demande à des écrivains de réagir à l'actualité de façon avec un recul et un style. C'est ce que j'appelle la transmission.
Oui, le style, c'est important aussi, et il y en a dans cet ouvrage. Toutefois, revenons à ce siècle vert. Pour ma part, il me semble un peu fragile. C'est-à-dire, vous avez dit, ce sont des préoccupations de riches, ce sont des préoccupations de gens qui bénéficient d'un certain confort matériel. En fait, c'est une préoccupation de gens qui sont sortis des soucis qui étaient ceux des gens qui luttaient pour leur survie et contre la nature, qui devaient la dompter, qui devaient en tirer leur subsistance. Force est de constater que ce n'est pas le cas de tout le monde à la surface de la planète, mais même au sein de notre propre pays, on a vu un certain nombre de luttes sociales, peut-être un peu scénarisées, ne pas avoir pour objet ces questions-là, mais des questions un peu plus prosaïques, comme le pouvoir d'achat, par exemple.
Oui. Fin du monde, fin de mois, on connaît cette opposition. Non, attendez. Il y a eu tout de même... Il y a quelque chose de très sérieux sous l'écologie, qui est même la découverte de la finitude des ressources naturelles, d'une certaine précarité, je dirais, de l'être humain en tant qu'espèce vivante, liée à une dégradation, enfin, liée à la concomitance de différents facteurs qui posent un vrai problème. Je ne veux pas nier du tout le péril... où peut se trouver la survie d'Homo sapiens. Simplement, je fais confiance à Homo Faber, qui a toujours trouvé le moyen de s'arranger avec les nécessités climatiques. Vous savez qu'il y en a... Vous vous souvenez sans doute, parce que vous souvenez sans doute de ce qui s'est passé à la fin du Paléolithique, n'est-ce pas ? La fin de la période dite glaciaire, ça a été un réchauffement climatique considérable, beaucoup plus considérable, plus étalé dans le temps, nous sommes d'accord. Enfin, ça a permis tout de même la domestication des animaux, la naissance de l'agriculture. Les mammouths sont partis et on les a remplacés par des petits lapins. Les petits lapins, c'est comestible. Les mammouths, ça ne l'est pas. Donc on s'est débrouillé. On peut même dire que le premier réchauffement climatique, enfin, celui dont on garde trace, c'est le début de la révolution néolithique. Donc, au fond, c'est le début de ce que nous sommes, nous. Donc, je ne veux pas du tout faire du souci écologie une mode. Non, je crois que c'est beaucoup plus qu'une mode. Je crois que c'est beaucoup plus qu'une mode. D'abord, il y a un problème objectif, indéniable. C'est l'Anthropocène, on ne va pas commencer là. Et c'est aussi le fait que nous sommes fatigués de l'histoire. Nous avons, je dirais, payé notre écho au devoir historique. Nous avons fait beaucoup de guerres, de batailles. Ça fait beaucoup de morts. Et l'Occident est fatigué. Donc il a envie de jardiner.
Voire d'expier, non ?
Oui, d'expier sans doute. Il y a effectivement, au début de toute religion, il y a un sentiment de culpabilité. Et là, nous nous sentons coupables de notre hubris industriel, de notre insouciance vis-à-vis des nappes phréatiques, de la pureté des cours d'eau, des lacs, du trou d'ozone, etc. Donc, nous avons commis des fautes, il faut les expier. Donc, oui, un côté expiatoire, comme vous dites. Mais... on ne peut pas nier qu'il y ait un problème. Enfin, pour moi, si vous voulez, comment dirais-je, s'il n'y a plus de nation, il faut inventer la terre-patrie. Voilà. Alors moi, je doute que la terre
soit une patrie. Oui, mais nous sommes les seuls à inventer cette terre-patrie.
Alors nous sommes les seuls, oui, nous sommes les seuls. Mais on peut vous dire que l'Occident donne le « là » au reste du monde et que l'Angleterre était la seule à faire la révolution industrielle, à faire des filatures mécaniques en 1850. Enfin, d'accord, elle était la seule, mais tout le monde en fait maintenant. Hein, c'est-à-dire même l'effet irradiant de ce qui peut être une avant-garde qui prend de l'avance sur les autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une... c'est un apanage... des pays très développés qui se sentent coupables d'un surdéveloppement, d'une surcroissance et qui veulent décroître pour se retrouver, à l'égal des chimpanzés, en quelque sorte, c'est-à-dire de se retrouver animal mais vivant.
Parce que si cette pente est suivie en Occident, ce qui me frappe, c'est justement la dichotomie qui peut exister avec d'autres. C'est-à-dire que dans les pays émergents, il y a clairement un désir d'histoire. voire un désir chez certains, un désir de revanche. Je ne parle pas de revanche guerrière, mais c'est un sentiment d'humiliation du siècle industriel qui était celui de la domination de l'Europe. C'est assez patent en Chine, le discours, c'est celui de retrouver la place qui était la nôtre, de celle de l'Empire du Milieu. C'est un désir d'histoire. Lorsqu'ils font les routes de la soie, on est en plein dans cette civilisation faustienne que vous décrivez, que nous avons abandonnée. J'imagine que l'Inde ne doit pas non plus avoir un désir de disparaître.
Non, mais...
Loin de là.
Comment dirais-je, c'est pas un jeu à somme nulle, mais enfin, quand les uns quittent l'histoire, les autres y rentrent. Et seulement ceux qui y rentrent, ils veulent un peu se prendre leur revanche. Hein. le dominé veut à son tour être dominateur. Bon, écoutez, c'est le jeu depuis la naissance des empires et peut-être même avant des tribus. Donc c'est vrai que nous n'avons plus envie de faire la guerre. D'ailleurs, il n'y a plus de service militaire, comme vous savez. Le 26 août 1914, il y a eu 20 000 morts dans une journée en France. 20 000 tués. 20 000. Le président Poincaré n'est pas sorti de son bureau. Il a dit que c'est une mauvaise journée. S'il y a deux morts, deux soldats tués au Sahel, vous avez le président de la République qui non seulement sort de son bureau, mais fait des manifestations. Donc ce rapport à la mort, il nous est très particulier. Beaucoup d'autres pays ne craignent pas la mort. Les islamistes ne craignent pas la mort. Pour eux, c'est un bienfait. Pour nous, c'est embêtant. Mais pour eux, c'est une victoire, puisqu'ils font gagner le paradis. Et puis beaucoup d'autres se sacrifient pour leur patrie ou pour leur nation, très fiers. Donc, effectivement, disons que l'histoire, c'est une porte-tambour. Il y a ceux qui rentrent, il y a ceux qui sortent.
On peut imaginer quand même qu'un certain nombre de réalités, notamment là... L'ennemi, c'est aussi celui qui vous désigne, même dans l'arène économique. Un compétiteur, c'est quelqu'un qui dit « je vais prendre ta place sur tel marché
». Ah non, mais la guerre continue, mais pas sous les mêmes formes. De toute façon...
L'histoire, c'est pas si... Enfin, même si on décrète qu'on veut sortir de l'histoire, qu'on va mourir, parfois elle se rappelle à nous.
Oui, vous avez tout...
Elle frappe à la porte.
Vous avez tout à fait raison. c'est-à-dire que... Oui, c'est vrai que l'Europe est une grande impuissance, mais il y a d'autres puissances qui s'occupent d'elle, hein, en leur piquant leur marché, en annexant leurs industries. Enfin bref, c'est effectivement, quand on n'est plus sujet de l'histoire, on devient objet. On n'est plus prédateur, on devient proie. Évidemment, oui, vous avez raison. Mais il ne faut pas avoir peur d'être décadent. C'est formidable d'être décadent. C'est un moment extrêmement savoureux, culturellement très riche. Les grandes œuvres de la romanité, c'est plutôt... c'est pas du tout avant le 1er siècle. C'est ce qu'on appelle l'Antiquité tardive. L'Antiquité tardive, elle est très très riche. Donc moi je trouve que la décadence est un état d'abord, j'allais dire où tout est permis, en tout cas où il y a une grande licence, où il y a beaucoup de créativité, beaucoup de culture. Il y a une fête de la décadence, regardez Vienne, le siècle viennois avant l'écroulement de l'Autriche-Hongrie, tout vient de là. Donc, il faut profiter de cette décadence. Moi, je ne me gêne pas du tout. Bon, je trouve que... je ne dis pas que Paris est comparable à la Vienne de 1910. Hein. Non, ça... Mais enfin, tout de même, il y a beaucoup de choses qui se passent. De spectacles, de films, d'inventions. On trouve même des trottinettes très jolies. Le siècle vert est une incitation à remettre le moment actuel dans la longue durée. Voilà, c'est-à-dire à remettre, je dirais, le tournant que nous vivons après d'autres tournants. Il y a eu la naissance de la civilisation faustienne, que je calcule à peu près avec Spengler, plutôt au 15e siècle, fin 15e, début de la Renaissance. Et aujourd'hui, ce moment faustien est en train de disparaître. Il renaît ailleurs, hein.
Oui, voilà.
Il renaît ailleurs. Si vous êtes en Californie, c'est pas Faust qui n'est, il n'est pas mort, hein. Faust, il est du côté de l'intelligence artificielle, de la cyberculture, enfin, l'idée d'une humanité immortelle, robotisée, etc. C'est très faustien. Mais nous, c'est fini. Mais voilà, mais c'est pas grave.
Alors, disons provisoirement fini.
Provisoirement.
Bah, toutes les fins ont une fin.
Oui, mais enfin, le provisoire des autres n'est pas le nôtre. Parce que nous, c'est définitif.
Vous êtes si pessimiste que ça.
Ah, c'est définitif. Je veux dire, dans le resserrement d'une existence, je ne sais pas quel âge vous avez, mais enfin, nous vivons la fin de la faustienne. Pas sûr que nous voyons le début d'une autre ère. Si, nous voyons un peu balbutier la naissance de ce siècle vert. Mais enfin, on est bien forcé de mourir, donc de mourir avec le siècle qu'on a en tête, dont on a la mémoire, et qui est pour moi le siècle rouge.
Très bien. Nous allons essayer de nous faire donc l'émergence de cet univers pastoral et en tirer le meilleur qu'il a aussi, car il a aussi des bons côtés que vous avez décrits avec une certaine ironie, mais qui sont réels. Merci beaucoup.
Merci à vous de votre tolérance et indulgence.
C'est vous qui avez été indulgent. Les références de l'ouvrage dans la collection Tract Gallimard, Le siècle vert, un changement de civilisation par Régis Debray, à lire et à méditer pour comprendre ce qui se joue sous nos yeux et faire en sorte que cela soit bien provisoire. Thank you.